Donc, on avait vu le premier chapitre de Daniel. Qu'est-ce qui se passait dans le premier chapitre?
C'est quand il était déporté.
Voilà. Donc, on a le début un petit peu de l'histoire de Daniel avec son transfert de Jérusalem à Babylone après la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Ensuite, on a vu le deuxième chapitre. Et ce deuxième chapitre va nous intéresser parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec le texte qu'on va voir ce soir. Et c'était le roi Nebuchadnezzar qui a fait un rêve où il voit une statue. Et donc Daniel va lui donner l'explication concernant cette statue et cette vision. Ensuite, on avait vu le troisième chapitre avec l'histoire des trois amis de Daniel qui se retrouvent mis dans une fournaise et Dieu va les sauver de manière miraculeuse. Ensuite, on avait vu dans le chapitre 4 un autre rêve du roi Nebuchadnezzar avec un grand arbre qui était une représentation en fait de son royaume et une annonce de ce que Dieu allait lui faire, où il va le réduire à un état de folie. Il va se prendre pour un animal pendant une saison de sa vie. Et donc il fait un rêve et c'est une annonce de ce qui va lui arriver par Dieu. Ensuite, on a vu le chapitre 5 la semaine dernière avec la chute de Babylone et avec la prise par Cyrus, par l'empire Médo-Perse, dont on va encore parler ce soir. Et ensuite, on avait vu dans le chapitre 6 l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions, quand, avec Darius le Mède, il ne veut pas se soumettre à des lois concernant les religions dans le royaume et il est condamné à être mis dans une fosse aux lions. Et Dieu, encore une fois, dans ce livre, utilise un miracle pour sauver Daniel. Et montrer aussi la souveraineté de Dieu sur les autres dieux et sur les situations dans le livre. Voilà, donc ces six premiers chapitres sont la partie de Daniel où il y a pas mal de récits, d'histoires à propos de la vie de Daniel. On en a déjà parlé brièvement. Et maintenant, dans les derniers chapitres qu'on va regarder, des chapitres 7 à 12, ce sont des visions que Dieu va donner à Daniel et qui concernent la fin des temps, en fait, tout un petit peu l'étendue des temps depuis la vie de Daniel jusqu'à la fin des temps et à l'avènement du royaume de Dieu, vraiment dans toute son autorité, toute sa puissance. Et on va avoir plusieurs visions qui vont détailler plusieurs choses dans cette vision prophétique de l'histoire de l'homme. Alors, c'est des choses évidemment qui sont très intéressantes, peut-être un petit peu pas mal d'idées, de réflexions, des choses un petit peu qui peuvent tendre vers des cours d'histoire où on nous jette des dates et des choses. Donc, je voulais essayer de commencer ce soir en vous donnant un petit peu encore une fois le pourquoi de ces choses. Pourquoi c'est intéressant pour nous? J'en ai déjà parlé quand j'ai fait l'introduction de Daniel, mais enfin, on peut se perdre un petit peu dans les détails, quoi. C'est des choses qui, au final, pour nous, peuvent nous sembler un petit peu sans importance pour nos vies ou sans juste des connaissances, quoi. Des choses qui nous affectent pas vraiment. Et donc, on va regarder le chapitre 7. Et le chapitre 7 va nous donner un petit peu le plan général. Et les chapitres suivants vont donner des visions que Dieu a données sur certaines périodes qui sont comprises dans cette vision plus large de ce qui va se passer dans l'histoire de l'homme. Voilà. Et donc, on va regarder ces choses, mais la première chose qu'il est bon de noter, c'est de se dire que Dieu connaît le futur. C'est un petit peu, pour nous peut-être par moments, c'est un petit peu redondant. On se dit, mais bien sûr, Dieu connaît le futur, mais c'est bon de se le rappeler. Et notamment quand on réfléchit par rapport aux événements autour de nous, dans le monde, quand on voit les choses sur une échelle plus grande, de se rendre compte que Dieu maîtrise les temps et maîtrise ce qui se passe dans le monde et que lui voit tout ce qui va arriver, tout ce qui est arrivé, qu'il est dans une autre position que nous, il a une autre perspective que nous, et il voit tout ça, le plan large, et encore une fois, il voit aussi le plan au niveau de nos vies, et de ce qui se passe dans nos vies au jour le jour, et de ce qui va se passer dans nos vies dans le futur. Et ça doit être une source d'encouragement pour nous. Et par rapport à la Bible, quand on regarde ces prophéties et ces textes, ce sont des choses qui doivent encore une fois nous conforter dans notre foi, nous encourager dans notre compréhension et notre confiance dans le texte biblique. Et ce livre de Daniel, c'est vraiment un livre qui permet à Dieu de montrer clairement qu'il voit les temps. Et c'est quelque chose, on l'a dit pendant les cours précédents, peut-être pendant le deuxième, quand on a regardé le deuxième chapitre, qui va beaucoup, on va en reparler. Mais c'est Dieu ici, la prophétie qu'on a en face de nous, il y a des parties, des choses qui ont déjà eu lieu, mais qui ont été annoncées par Daniel avant qu'elles aient lieu. Et ensuite, il y a des choses qui sont annoncées qui n'ont pas encore eu lieu. Et pour nous, si on peut regarder ces choses et se dire « Daniel, avant, les événements a déjà regardé, Dieu lui a déjà donné des choses et elles se sont passées comme ça a été annoncé », il y a de bonnes chances que ce qui suit va aussi arriver. Et donc, en regardant ce texte, on doit être encouragé et se rappeler que le texte biblique, c'est vraiment un texte qui a une autorité et une véracité qui est incroyable et qui devrait, quand on l'étudie clairement et quand on le présente clairement, devrait vraiment remettre en question beaucoup des choses que les gens peuvent nous jeter comme critiques à propos de la Bible et à propos de notre foi. Il y a des choses dans la Bible qui sont, même au niveau pour les critiques, qu'ils n'arrivent pas à écarter d'une main. Il y a des choses qui sont très claires et notamment dans ce qu'on va voir ce soir et cette description de différents empires qui vont se succéder dans l'histoire de l'homme. On va regarder, mais j'y pensais, quand je préparais l'étude, là, j'ai regardé un petit peu pour les différents empires et les différentes descriptions qui sont faites des différents royaumes qui vont se succéder. Et c'est vraiment incroyable. J'adore Wikipédia. Et en regardant dans Wikipédia, des articles qui ont été écrits, alors c'est toujours des mélanges de gens qui ont écrit, mais avec des articles en des textes, ils se réfèrent à des textes, à des articles, à des publications qui leur ont servi de source. Et de voir la cohérence des descriptions qu'on voit dans Daniel 7 et dans Daniel 2 à propos des différents royaumes qui se succèdent, avec les descriptions qu'on trouve dans Wikipédia quand on ouvre et qu'on regarde l'Empire grec, quand on regarde l'Empire médo-perse, quand on regarde l'Empire babylonien, quand on regarde l'Empire romain, les gens, les mots qu'ils utilisent, les descriptions qu'ils en font, c'est des trucs qui ressemblent de manière assez incroyable avec ce qu'on voit dans le texte biblique. Et c'est juste pour vous donner un peu peut-être une soif de regarder ces textes et de vous y plonger peut-être un peu plus ou de vraiment vous poser la question. Ces textes sont, alors évidemment c'est des textes qui sont imagés et des fois on a cet esprit critique en nous, on se dit mais c'est un peu, est-ce qu'on peut vraiment en être sûr? Mais vraiment, enfin, on va essayer de regarder ce soir, je vais essayer de vous donner un petit peu des idées. Mais si vous avez le temps, prenez le temps de lire, rien que pour votre culture générale, c'est toujours intéressant. Mais ces différents empires et les descriptions que font les gens, les historiens, les livres d'histoire qu'on a au collège, au lycée, etc., correspondent à ce qu'on voit dans la Bible. Et c'est vraiment, enfin, c'est des... Il y a une cohérence et un lien avec les récits et les traces qu'on a dans l'histoire hors de la Bible qui corrobore complètement ce qu'on voit dans la Bible. Et encore une fois, ça montre et ça devrait nous rassurer et nous encourager par rapport au texte biblique qui n'est pas un truc tombé de nulle part, qui est inventé par un mec qui s'est dit « je vais écrire un truc ». C'est des choses concrètes où il y a vraiment une cohérence. Et juste, alors deux, trois petites questions pour qu'on réfléchisse un petit peu à ces choses-là, un petit peu à ce que je vous ai dit. Si on devait, imaginons, on se trouve dans une des séries à la télé où on a des super pouvoirs et on peut voyager dans le temps. Comment on revient et on doit convaincre quelqu'un qu'on a un message pour lui éviter des problèmes dans le futur, et on veut lui dire, bon ben, j'ai vu quelque chose, mais comment est-ce que vous feriez pour lui montrer que vous savez ce qui va se passer? Il vous dit, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, genre, tu sais ce qui va se passer demain. Comment vous feriez? C'est assez simple. Vous lui dites, dans 10 minutes, il va se passer ça. Dans 10 minutes, le truc arrive, il dit, bon, d'accord. Vous lui dites, il dit, ouais, c'était peut-être de la chance. Tu lui dis, dans une demi-heure, il va se passer ça, il se passe le truc. Le lendemain, vous lui dites, il va se passer ça, le lendemain, il se passe le truc. Il y a bien un moment où le gars, il va commencer à se poser des questions. Et nous, on se trouve en présence d'un texte qui est comme ça. C'est Daniel, avant tout ce qu'il va décrire, il a annoncé des choses et ces choses se sont accomplies. Historiquement. On va voir, il y a des... Par rapport à ses visions, par rapport aux images utilisées, il y a des... On peut aller dans des musées dans le monde, dans des endroits où il y a des pierres avec les choses qu'on voit dans cette vision qui sont en dur. C'est assez incroyable. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est quelque chose qui doit nous montrer que le texte, ce que prédit le texte et qui n'a pas encore eu lieu, on peut parier que ça va arriver. Et alors, quand Dieu a donné l'image à Daniel, il n'avait peut-être pas encore ce recul. Mais nous, on a ce recul. Et on a notamment Jésus qui nous parle de Daniel dans Matthieu 24 et qui, parlant à ses disciples, leur a dit « Quand les choses dont Daniel parle arrivent, voilà ce que vous devez faire. » Donc, Jésus donnait de l'importance au texte de Daniel et voulait que ses disciples soient au courant de ce qui était annoncé et prennent les choses comme des choses sérieuses aussi à connaître. On peut s'y tourner peut-être dans Matthieu 24 si vous voulez. Donc Jésus et avec ses disciples, ils étaient dans le temple et en sortant, il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Et ensuite, donc, ils vont sur le mont des Oliviers, et ses disciples lui demandent, dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Et ensuite, Jésus donc leur annonce un petit peu, leur donne des signes, leur donne des choses dont ils... Des signes des temps, comme il les appelle. Au verset 4, il leur dit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et ensuite il leur dit, il leur annonce encore des choses, mais dans l'annonce, dans la réponse de Jésus à ses disciples concernant la fin des temps, il leur parle de Daniel. Et ce dont il fait référence ici, l'abominable dévastation ou l'abomination des abominations, on ne va pas le voir dans le texte ce soir, mais on va le voir dans les textes qui suivent dans Daniel, où il en parle. Et donc, le fait que Jésus en parle à ses disciples et leur dise « il y a des choses dans Daniel que vous devez savoir et auxquelles vous devez faire attention », ça s'applique aussi à nous. Il y a des choses dans ce livre qui sont importantes pour nous. Et même s'ils sont parfois peut-être difficiles à comprendre, on a ce devoir en tant que croyant de rechercher et chercher à comprendre ce qu'il y a dans la Bible. Et même dans ces textes qui semblent difficiles, que sont peut-être Daniel ou Apocalypse, en s'y approchant avec humilité, bien sûr, mais en cherchant à comprendre ce que Dieu voulait nous communiquer avec ces textes. Une autre question et un autre point qui est important et intéressant de noter, c'est qu'on est, avec des textes comme ça, on est face à des questions où on ne peut pas vraiment se permettre de demi-mesure. On ne peut pas vraiment se dire... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est des textes où on se dit soit c'est vraiment... Soit ça valide vraiment, vraiment la Bible, soit c'est le genre de texte qui l'invalide, mais alors vraiment. Ces prophéties, il n'y a pas de demi-mesure. C'est des choses qui sont tellement fortes dans les mots, dans les descriptions, dans la finalité de ce qui arrive, que c'est des choses où soit elles vont arriver comme annoncé, elles sont en cohérence avec quelque chose qui est vrai, soit c'est des choses qui sont vraiment... soit c'est pas la peine qu'on s'attarde sur la Bible, quoi. Enfin, c'est un peu... ces thèmes, et on va un petit peu le regarder encore une fois ce soir et dans les cours suivants, mais c'est des choses aussi qui transparaissent dans toute la Bible. Ces thèmes de l'autorité de Dieu, de sa souveraineté sur l'homme, de son plan avec l'histoire, de son jugement final, du fait qu'il y a un moment où les hommes vont tous devoir rendre des comptes. Il y a un moment où Dieu va... finaliser la rébellion de Satan vis-à-vis de lui, et c'est des choses qui donnent une cohérence et ce sont des thèmes qui sont tellement qui transpirent tellement dans tous les textes bibliques, dans tellement de choses dans la Bible, dans tellement de passages, qu'on ne peut pas se dire je crois en Dieu, mais le livre de Daniel me semble un peu bizarre et je ne crois pas qu'il soit vraiment précis, ou l'Apocalypse, c'est un peu du... Ouais, c'est des visions un peu exagérées, ou alors c'est des choses qui se sont déjà passées, mais maintenant l'histoire continue. Quand on voit les critiques, notamment de ce qu'on va voir ce soir dans Daniel, c'est des choses qui... les critiques disent, bon, ça s'est déjà passé, et... On va regarder un petit peu pourquoi c'est vraiment, enfin, tiré par les cheveux de dire que ce sont des choses qui ont déjà eu lieu, mais juste de nous mettre un petit peu au pied du mur face à ces textes, de dire si on veut avoir une foi cohérente et si on veut défendre notre foi vis-à-vis des gens, il faut aussi qu'on ait une compréhension, ou du moins une humilité, une approche vis-à-vis de ces textes difficiles qui soient honnêtes. On peut pas parler avec les gens et puis leur dire il y a une partie de la Bible comme Daniel où on se dit bon, c'est peut-être un peu des choses bizarres qui ont été incluses un peu par peut-être par accident, ça n'aurait pas dû être dedans. Enfin, il y a vraiment des choses, et je vous encourage vraiment à y réfléchir. C'est des choses qui prennent du temps, mais c'est des choses qui peut vraiment vous décourager. Si vous y mettez pas le temps et vous les lisez vite fait, vous dites j'y comprends rien, c'est insensé, ça peut vous décourager et vous laisser un petit peu dubitatif vis-à-vis de tout le texte biblique. Soit c'est des textes où vous y plongez, et comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, en m'y plongeant, en regardant un petit peu les commentaires, les choses qu'on trouve en ligne, les critiques qui sont faites vis-à-vis du livre de Daniel, au premier abord, on se dit, ouais, c'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes, il y a des choses, je ne vois pas très bien comment ils peuvent tirer ces conclusions-là, c'est vrai que ça me semble assez incohérent, et il y a des critiques qui semblent cohérentes, et moi, en commençant l'étude, la première étude, j'étais un petit peu en, bon, bah, on va y aller, mais je suis un petit peu en hésitation, et en étudiant, et en voyant les raisonnements et les questions et les recherches et les, Il y a des hommes qui ont passé leur vie à étudier ces livres, à essayer d'appuyer tout ce qui est dans ce livre, dans leur étude de l'archéologie. C'est vraiment des choses qui sont... Où si on prend du temps pour les étudier, ça peut vraiment nous encourager, nous fortifier dans notre foi. Vieux l'introduction. Et par rapport à ces choses, et peut-être juste par rapport à Daniel, on a vu la vie de Daniel, on a vu des caractéristiques par rapport à la vie de Daniel, et on a vu l'homme qu'était Daniel, sa discipline, sa foi en Dieu, sa fidélité envers Dieu malgré toutes les circonstances, tout ce qui lui arrivait, et de se dire que c'est pas non plus par hasard que Dieu peut révéler, peut donner des visions aussi incroyables et aussi, j'ai envie de dire, folles. Enfin, de donner ce genre de vision, c'est Dieu qui se montre à l'homme, quoi. C'est Dieu qui montre ce que normalement nous on va voir une fois mort et passer dans l'éternité. Et Dieu a permis à des hommes comme Daniel, et c'est pas pour rien. Il y a une. Daniel avait cette vie et avait quelque chose qui avait cette relation avec Dieu qui fait aussi qu'il était un homme à qui Dieu pouvait montrer ces choses. Et pour nous aussi, quand on se dit mais Dieu me parle pas, c'est une relation, et en même temps ça peut être décourageant, mais en même temps c'est une exhortation pour moi et pour vous de me dire, en recherchant Dieu, en ayant cette envie d'être avec lui, de connaître sa parole, de le prier régulièrement, d'être avec lui, d'avoir cette discipline, cette fidélité dans la relation, c'est avec ça que Dieu peut nous montrer des choses, peut nous parler, peut nous révéler des choses, et c'est, ça va de pair. C'est pas des choses qui sont qui tombent forcément, ce sont pas des choses qui arrivent au hasard. Et donc un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire quel est notre trésor, quelles sont les choses qui nous concernent, est-ce qu'on est plus concerné par ce que Dieu a à nous montrer, sur ce que le Dieu de l'univers veut nous parler, veut nous communiquer, ou est-ce que ce sont d'autres choses qui nous concernent et qui prennent notre temps. Et par rapport à ces idées de la fin des temps et au jugement de Dieu, il y a aussi cette idée de est-ce qu'on est prêt, si ces choses arrivaient bientôt, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour ce moment où Dieu dit qu'il va clore il va clore la scène, il va tirer le rideau et ça va être fini. Et que ce soit par les événements dramatiques qui arrivent ou simplement parce que nous on décède pour une raison ou pour une autre, le jour va arriver et c'est aussi une exhortation à ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on est prêt? Voilà. En quelques mots, donc on va commencer maintenant à regarder Daniel 7, si vous voulez lire avec moi. La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. » Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de viande. » Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des 10 cornes qu'elle avait sur la tête ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle 3 rois étaient tombés. La corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voilà ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination. Elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà étudié le texte. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est un peu la première fois qu'ils se penchent sur ce texte? Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Et j'ai envie de dire, nous, ça nous paraît bizarre. Mais nous, on vit à une époque où on peut nous présenter des images créées de trucs très fous à la télé. Vous imaginez ce texte pour des gens il y a 500 ans? Ou à l'époque de Daniel? Enfin, je veux dire, c'est tout ce que... Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent claires? Qui vous semble explicite? Non? Il y a des passages qui sont quand même un peu plus clairs que d'autres, non? L'ancien des jours. Pensez que c'est qui?
Dieu.
Après verset 13, on a la description de quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ça, c'est le titre qui revient des tonnes de fois dans les évangiles quand Jésus parle de lui-même. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce titre « Fils de l'homme », c'est quelque chose pour Jésus et pour les Juifs à l'époque de Jésus qui venait de ses visions dans Daniel. C'est un titre qui prend son origine dans le livre de Daniel. Donc ça montre encore une fois que Jésus prenait le livre de Daniel au sérieux. C'était pas juste le moment où il a dit ce dont a parlé le prophète Daniel. Il parle tout le temps, il se nomme comme étant le Fils de l'homme. C'est en référence à ses visions dans Daniel.
Est-ce qu'on est sûr que c'est, ou à peu près sûr que c'est Jésus, ce qu'on est ici?
Alors, on va voir.
Je vois que ça dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas. Mm-hmm.
Bah, disons qu'on a, d'après le texte, d'après les images et d'après ce qu'on voit dans Apocalypse, on n'a pas de raison de penser qu'il y ait de différence. J'ai pas regardé que par rapport à l'étymologie exacte du mot, même si c'était vraiment exactement le même mot, mais dans tous les commentaires que j'ai vus et dans toutes les même les tout ce qu'on peut regarder dans par rapport à des commentaires au Nouveau Testament, toutes les références que Jésus fait de lui-même comme étant le Fils de l'homme, eux ils l'expliquent comme lui se référant à celui qui est décrit dans Daniel comme étant le Fils de l'homme. Tous les commentateurs qui voient, c'est pas seulement par rapport au texte dans Daniel, mais un petit peu comme la compréhension même qu'en avaient les Juifs de ce titre. Et a priori, ça vient aussi du livre de Daniel. Est-ce que vous avez d'autres remarques?
Il y a des ressemblances quand même assez fréquentes avec l'Apocalypse.
Ouais, des ressemblances.
La chronologie qui est décrite.
Totalement. Alors, est-ce qu'on peut. Peut-être on peut lire maintenant, juste pour se donner les parallèles, et puis après, peut-être on regardera. Si on se tourne dans l'Apocalypse, on peut regarder. Il y a différents passages qui sont intéressants à regarder. On peut lire le chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ceux dès la création du monde. Donc voilà qu'il y a déjà au niveau des images et des descriptions, qu'il y a des choses qui ressemblent. Il y a une bête. On voit la description de la bête avec qui ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Qui nous rappelle des images, des choses qu'on a vues dans ce qu'on a lu dans Daniel 7. Après, il y a cette question des 10 cornes. Après, il y a cette idée d'une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Ensuite, il y a cette guerre qui est menée contre les saints de Dieu. Et ensuite, il y a des choses qui ressemblent aussi dans Apocalypse 17. On peut lire tout le chapitre pour voir, mais sans vraiment s'y attarder complètement. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler et dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, et des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra, qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée et la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet, ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Donc encore une fois, des images un petit peu de peinture apocalyptique, comme on dit, qui ne nous semblent pas forcément très claires. Il est question de roi, de puissance, de royaume, des saints, de combat, on voit ici des cornes, la bête qui semble assez proche de la description dans Daniel. Donc on va essayer de regarder ensemble maintenant dans Daniel et donner un éclairage sur le texte. Peut-être qu'on va faire la pause maintenant et qu'on va y revenir après.